C'est donc si passionnant, l'histoire.
C'est la science par excellence qui nous enseigne le vrai gouvernement des hommes et du monde.
Le 4 septembre 1870.
C'est alors, au milieu du drame national et de la guerre étrangère, apparut la République. Elle était la souveraineté du peuple, l'appel de la liberté, l'espérance de la justice.
Quand il arrive qu'on célèbre la proclamation de la République, le 4 septembre 1870, c'est pour dire, comme le général de Gaulle, elle s'est offerte au pays pour réparer le désastre de la défaite de Napoléon III à Sedan. Malraux, dans la même manifestation populaire de 1958, ajoutait aussi une référence à l'époque des soldats de l'an 2. La République telle qu'elle revenait était une réinvention de la Révolution. Quand elle est évoquée, la journée du 4 septembre l'est donc avec ses couleurs. Elle ressemble aux révolutions qui l'ont précédée, en 1848 aussi, pour ne prendre que cet exemple. On s'était déjà porté à l'hôtel de ville, on y avait acclamé un gouvernement provisoire drapé de tricolores. Les couleurs du passé, mais aussi des couleurs embellies. On se félicite, à juste titre, que le 4 septembre n'ait connu ni barricade ni violence, que le sang n'y ait pas coulé. De là à laisser entendre, comme le général, que les députés républicains ont offert leur personne de gaieté de cœur, il y a un pas. L'urgence pour eux, c'était d'éviter une révolution sociale dont ils jugeaient qu'elle n'était pas de circonstance au beau milieu d'une guerre déjà à peu près perdue. En réalité, cette journée recèle une grande part d'équivoques. C'est une des raisons qui font que sa mémoire, tout de suite, a été très atténuée. Aujourd'hui, demandez au pied du métro, 4 septembre à Paris, à quoi fait référence ce nom ? Vous aurez peu de réponses. En revanche, si vous évoquez le siège de Paris, les animaux du zoo qui furent dévorés, le départ de la capitale en ballon de Gambetta, et enfin la commune de 1871, vous constaterez qu'un bloc d'histoire s'est quand même constitué dans pas mal d'esprits. Le 4 septembre ne survit que comme le premier moment de cette phase. La République se nomme Résistance et Révolution. Malraux avait raison.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Pierre Cornu-Gentil, bonjour.
Bonjour.
Tout bronzé au soleil du 4 septembre, il faisait beau. Hein,
ce jour-là, il faisait très très beau.
1870. Alors, vous m'avez recommandé de dire que vous étiez l'avocat de François Fillon, c'est ça ?
Non, je suis l'avocat de Pénélope Fillon, mais je ne vous ai pas recommandé de le dire.
De François-Marie Bagnier. Bon, je vais m'arrêter là. Vous préférez, bien sûr, que je rappelle que vous avez publié, à rythme régulier, depuis quelques années, de bons livres d'histoire aux éditions Perrin. Et le dernier, c'est le 4 septembre 1870, l'invention d'une république. On reviendra peut-être sur ce sous-titre. Alors, la célébration de ce jour est intermittente.
Elle est intermittente, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle est pratiquement jamais célébrée. Cet événement n'est jamais commémoré. Il ne l'a pas été pour son cinquantenaire. Il l'a été très modestement pour son centenaire avec juste une petite manifestation à l'hôtel de ville où le président Pompidou s'est rendu, mais rien de plus, pratiquement. Si le 4 septembre 1958, le général de Gaulle a célébré le 4 septembre 1870, c'était en réalité parce que c'était pour lui l'occasion de présenter la nouvelle Constitution aux Français.
Et André Malraux l'a précédé à la tribune qui avait insisté auprès du préfet de police qui craignait des difficultés avec les partisans de l'indépendance algérienne. Malraux avait dit « Non, non, il faut qu'on soit là. »
Citoyens, citoyennes, il était bien imprudent de m'opposer que le peuple de Paris ne serait pas au rendez-vous du général de Gaulle avec la République. Le peuple de Paris est là! Ce qu'est pour nous la République, nous ne l'avons jamais si bien compris que pendant les années d'occupation. Sur les socles déserts, la vieille voix alors sans visage disait « On a pu chasser mes effigies, mais nul n'a pu les remplacer. » Il n'est au pouvoir de personne de m'arracher du cœur des Français. Je suis une part ineffaçable de votre fierté fraternelle. À un monde qui ne connaît pas d'égalité absolue, J'ai jadis imposé l'égalité des hommes devant moi. En un temps où pour tous les peuples d'Europe, la France trouvait dans la Révolution sa nouvelle mission, je me suis appelé la Révolution. J'étais le courage, j'étais la justice, j'étais l'espoir.
Que la République était belle sous l'occupation. Que la République était belle sous le Second Empire. Est-ce qu'il y a vraiment une remise en cause, je ne sais pas, dans les années de la fin de l'Empire libéral, en 1868, 69, 70, du régime impérial au nom d'une République qui pourrait intervenir rapidement?
Oui, il faut savoir que dans ces années-là, effectivement, l'Empire se libéralise, mais il demeure très populaire, et peut-être d'autant plus populaire qu'il se libéralise, d'ailleurs. Et les républicains modérés, ceux qui vont prendre le pouvoir le 4 septembre 1870, sont absolument convaincus que les Français, en réalité, ont peur de la République. Tout simplement parce que ça a mal tourné en 1793, ça a mal tourné en 1848, et donc l'idée de république est associée à l'idée de violence dans l'esprit de beaucoup de Français qui sont conservateurs. Mais Gambetta et ses amis républicains modérés sont absolument convaincus qu'ils vont tôt ou tard, et sans doute un peu plus tard que tôt, prendre le pouvoir, parce que l'Empire a habitué les Français au suffrage universel, en dépit de tout, ou parce qu'effectivement l'Empire, c'est aussi les plébiscites, c'est aussi des élections, même si elles peuvent se dérouler dans des conditions discutables.
Alors là, dans l'ordre, il y a eu des élections législatives en 1869. Les Parisiens, en tout cas, d'habitants des grandes villes ont voté républicain.
Voilà. Les Parisiens sont majoritairement républicains. À Lyon, c'est pareil. À Marseille, c'est pareil. À Bordeaux, à Toulouse, les grandes villes sont républicaines. En revanche, le reste de la France est finalement assez attaché au Second Empire. Mais d'élection en élection, on gagne des voix et des sièges.
Oui, mais vous parlez de plébiscite. Fort habilement, le nouveau président du Conseil que s'est choisi Napoléon III, le jeune Émile Ollivier, qui est à peine plus vieux qu'Emmanuel Macron,
qui est un républicain rallié. Voilà. C'est un républicain constructif, d'une certaine manière.
Il met aux voix les réformes constitutionnelles, le rétablissement des libertés publiques, et c'est un plébiscite le 8 mai 1970, avec 7 300 000 oui contre 1 600 000 non.
Donc c'est en apparence, et c'est sans doute un succès pour le Second Empire et pour Napoléon III, mais un succès un peu ambigu, parce que parmi les votants du oui, il y a ceux qui le font simplement par fidélité à l'Empire et qui sont parfois des extrémistes hostiles à la libération et au libéralisme, et puis il y a aussi peut-être des républicains qui s'abstiennent qui votent parce qu'ils sont favorables à l'évolution libérale. Donc il y a un grand succès du Second Empire à travers ce plébiscite, mais il y a aussi une ambiguïté.
Et dans la cour impériale, dans entourage de Napoléon III, de plus en plus affaibli par la maladie, flanqué de l'impératrice, des rats à poils, c'est une expression qu'on utilisait à l'époque. Imagine une stratégie pour rehausser, une fois le succès du plébiscite accompli, l'Empire. Une stratégie un peu nationaliste, un peu guerrière.
Voilà, c'est ce qu'on a appelé également les Mamelouks, par référence à la garde rapprochée de Napoléon Ier. Les Mamelouks, c'est les ultras. C'est ceux qui sont hostiles, qui, tout en se disant fidèles au Second Empire, sont hostiles à l'évolution libérale, et ils se réunissent autour de l'impératrice qui, avec la déclaration de guerre, va devenir régente, pour faire tout ce qui est en leur possible pour éviter l'évolution libérale. Et parmi ce qu'ils imaginent de faire, c'est de provoquer cette guerre, en réalité.
La guerre dont vous dites, comme tous les historiens, qu'elle aurait pu être évitée, et dont Thiers disait, parce que lui, il a l'expérience de l'âge et de beaucoup de manifestations nationalistes qu'il avait lui-même allumées, qu'elle était peut-être perdue d'avance. En tout cas, au bout de 4 jours, l'Alsace-Lorraine ne peut être défendue. Napoléon III partit à la tête de l'armée de Châlons, qu'il gêne, vu son état, plus qu'il ne la mène, et partit secourir une autre armée, celle du Rhin, qui était piégée à Metz. Et c'est la défaite de Sedan que l'impératrice régente aux Tuileries apprend par une dépêche.
L'armée est défaite. N'ayant pu me faire tuer au milieu de mes soldats, j'ai dû me constituer prisonnier pour sauver l'armée. Napoléon.
Cela n'est pas vrai. C'est fou, c'est absurde. Vous savez ce qu'ils prétendent, les messieurs du télégraphe? Ils disent que l'empereur s'est rendu, qu'il a capitulé. Vous ne croyez pas à cette infamie, n'est-ce pas? Vous ne le croyez pas? Quoi? Que dites-vous? Il y a des circonstances où... Non, l'empereur n'a pas capitulé. Un Napoléon ne capitule pas, il est mort, vous m'entendez? Il est mort! Et on veut me le cacher. Il est mort. Il est mort. Il n'est pas mort? Il n'est pas mort? Alors c'est encore pis. Pourquoi ne s'est-il pas fait tuer? N'a-t-il donc point senti qu'il se déshonorait? Oh, messieurs, quel nom va-t-il laisser à mon fils?
L'impératrice, lisant la dépêche télégraphique devant les membres du conseil de cabinet, elle a écarté Émile Olivier en étant devenue régente. Elle a nommé le comte de Palikao à la tête de son cabinet, très connu pour le sac du palais d'été de Pékin, qu'il avait mené avec beaucoup de brio. Un mot quand même de l'impératrice. Alors on la présente souvent comme réactionnaire, bornée, suicidaire en la circonstance. Mais alors vous êtes avocat, alors vous avez un peu d'admiration pour la sollicitude qu'elle manifeste pour les détenus pendant le règne.
Oui, effectivement, sa personnalité est plus complexe qu'on ne le dit généralement. C'est une femme qui, effectivement, est catholique, conservatrice, c'est incontestable, qui s'intéresse de près à la politique. C'est son mari qui l'a formée, elle suit ça de près, elle est intelligente. Elle est donc, effectivement, une femme très conservatrice, mais néanmoins, on observe que pour l'époque, elle adopte parfois des attitudes qui sont assez modernistes, d'une certaine manière, ou en tout cas généreuse, notamment vis-à-vis des prisonniers. Elle se préoccupe du sort des prisonniers, ce qui n'est pas fréquent dans ces milieux-là à l'époque. Elle se préoccupe de l'éducation des jeunes filles. Elle pousse beaucoup Victor Duruy en faveur de l'éducation des jeunes filles. Mais elle reste néanmoins, et elle va devenir de plus en plus réactionnaire par la suite, en dépit de tout ça. Disons que son catholicisme paternaliste est finalement souvent assez proche de ce qu'il y a de social dans le bonapartisme. Voilà.
Oui, mais là, elle a 44 ans, elle est régente, elle n'arrive pas dans le conseil de cabinet qu'elle réunit le 3 au soir, vous racontez ça en détail, Pierre Cornu-Gentille, à prendre une décision, elle se refuse à transférer le pouvoir à quiconque. Elle gardera longtemps une méchante réputation dans les rangs républicains, bien sûr. Napoléon III était surnommé Badinguet. Eugénie de Montijo, j'ai oublié de dire qu'on l'a entendu tout à l'heure, interprétée dans la Tribune de l'Histoire par Nadine Allary, était moquée. Ici, ce sont les quatre barbus qui interprètent une chanson de l'époque.
Badinguet avait vu dans l'ombre, allongé sur un canapé,
allongé sur un canapé,
une robe de couleur sombre,
d'où sortait un pied bien cambré,
d'où sortait un pied bien cambré,
et déjà, avec impudence, sa main s'approchait à tâton,
sa main s'approchait à tâton, sa main s'approchait à tâton.
Majesté, lui dit sa conscience, majesté, arrêtez-vous donc.
Majesté, lui dit sa conscience, majesté, arrêtez-vous donc.
Badinguet, qui était lubrique, continua pourtant ses façons,
continua pourtant ses façons,
et bientôt, d'un geste impudique,
glissa la main sous les jupons,
glissa la main sous les jupons.
Un grand cri rompit le silence.
Ah! À moi, à moi!
Laissez ceci.
À moi, laissez ceci.
À moi, laissez ceci.
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
Avec Pierre Cornu-Gentil, vous n'allez pas vouloir que je répète que vous choisissez bien vos clients.
En général, c'est eux qui choisissent.
D'avocat. Mais vous choisissez bien vos sujets d'histoire. 4 septembre 1870, un nouveau livre signé de vous, Pierre Cornu-Gentil, et chez Perrin. L'impératrice, elle va se mettre hors jeu en refusant de transférer ce qui semble être presque une évidence, la légitimité du pouvoir au corps législatif élu en 1869. Il y a un autre acteur important dont il faut que vous nous disiez un mot, c'est le général gouverneur militaire de Paris.
Oui, Trochu est gouverneur de Paris. Il a été désigné par Napoléon III au milieu de la guerre, hein, 15 jours ou 3 semaines avant. Et c'est le seul général qui est en même temps populaire et apprécié par les républicains ou par le peuple républicain, parce qu'il s'est opposé à pas mal de décisions prises par l'Empire, notamment en matière militaire. Lui, il avait prévu effectivement que l'armée n'était pas en état de affronter l'armée allemande. Donc il est populaire, il est nommé gouverneur de Paris, il aurait pu jouer à ce moment-là un rôle important, mais il est haï par les Mamelouks, qui feront tout en accord avec l'impératrice pour ne pas lui donner les pouvoirs qu'on aurait dû lui confier à ce moment-là.
Je ne veux pas plaider la cause de la béatification d'Eugénie, mais enfin, vous dites que si elle n'a pas de contact avec Trochu, elle ne souhaite pas qu'on tire sur le peuple, non plus que Louis-Philippe n'avait.
Absolument.
Il souhaitait qu'on tire sur le peuple en février 1848. Absolument. Alors, le peuple, il est dans la rue dès le 3 au soir et de nouveau le 4 au matin.
Oui, parce que le peuple, d'abord, est stupéfait. Parce que les communiqués qui sont publiés, la presse, qui effectivement n'a pas de véritable information, laissent penser que si ça se passe pas très bien, quand même, on est en situation de résister utilement aux Prussiens. Et donc la nouvelle de la défaite de Sedan, dont il faut bien comprendre que c'est aussi l'information selon laquelle il n'y a plus d'armée, il n'y a pratiquement plus d'armée, et reçue comme un coup de tonnerre phénoménal. Et donc ça jette les Parisiens, qui sont majoritairement républicains, dans la rue pour réclamer la déchéance et la République dès le 3 septembre au soir.
Et la solution serait de faire passer le changement de légitimité par le corps législatif. Alors, au corps législatif, ici je vois pas les Bourbons, c'est le nom de l'Assemblée nationale qui, peu à peu, a vu, malgré cette réduction de son nom, ses pouvoirs augmenter pendant l'Empire libéral. Au corps législatif, il y a des Mamelouks, il y a des bonapartistes d'un autre type. Alors, il y a Monsieur Thiers et ses partisans. Quand on a 73 ans, il faut pas croire que l'âge diminue les ambitions. Au contraire, l'âge avive l'ambition.
Absolument. Et puis, il a l'intelligence et l'expérience, Thiers. Il est le seul qui, avec un peu aidé par Gambetta, mais plus fort encore que Gambetta, à avoir crié le 15 juillet qu'on allait à la catastrophe. Et il est le seul à avoir prédit ce qui allait se passer. Et donc, le 3 septembre au soir, lorsqu'on apprend la défaite de Sedan, alors qu'il était plutôt conspué et mal vu, il devient le recours pour pratiquement tout le monde.
C'est-à-dire, mais il est assez habile pour ne pas jouer le recours.
Il se défile. Et il est aidé en cela par l'impératrice et les Mamelouks, qui effectivement font tout pour empêcher une solution qui aurait été raisonnable, qui était celle de confier le soin de défendre le pays à un gouvernement, une sorte de gouvernement d'union nationale qui aurait réuni les libéraux de l'Empire des Bonapartistes, les orléanistes proches de Thiers, qui étaient, donc ça fait dire 100 libéraux bonapartistes à peu près, une cinquantaine d'orléanistes, et puis les 25 ou 30 républicains. Ça pouvait faire une majorité qui aurait pu faire confiance à une sorte de gouvernement d'union nationale, mais il fallait pour ça que la régente accepte l'idée et qu'elle se mette en retrait, ce qu'elle n'a pas voulu.
Alors, on va le réunir, ce corps législatif. Vous racontez que son président, c'est un président d'industrie aussi.
Absolument, c'est Eugène Schneider, qui est le patron de ce qu'on a appelé ensuite l'entreprise Creusot-Schneider.
Son président n'est pas enthousiaste. Quant au comte de Palikao, il y va moins vite qu'au palais d'été de Pékin. Au palais Bourbon, il faut lui forcer la main. Alors ceci, c'est encore un extrait de la tribune de l'histoire de 1976. C'est une restitution un peu rapide, mais vous allez nous donner les détails qui sont nécessaires ensuite. Pierre Cornu-Gentil.
La parole est à monsieur le comte de Palikao.
Vous comprendrez que nous n'avons pas pu nous entendre entre nous, car on est venu m'arracher de mon lit pour m'annoncer qu'il y aurait une séance de nuit.
Si la Chambre est d'avis que dans la situation douloureuse et grave que dessine suffisamment la communication faite par Monsieur le ministre de la Guerre, il est sage de remettre la délibération à midi, je n'ai aucun motif de m'y opposer.
Je demande la parole. Comme nous avons à provoquer cette délibération sur le parti que notre Chambre a à prendre sur la vacance de tous les pouvoirs...
Alors, vacances de tous les pouvoirs, c'est les républicains, vous disiez qu'ils sont très minoritaires, mais enfin qui prennent leurs responsabilités, qui utilisent l'expression. Alors, ce qui est intéressant dans votre livre, c'est que vous détaillez heure après heure, alors on se met d'accord pour créer une commission qui rédigerait un texte, est-ce qu'on va mettre vacances du pouvoir, ou en les circonstances présentes, enfin, il s'agit de rendre possible pour la majorité des députés qui la voteraient la déchéance, en fait.
Oui, voilà. Alors le problème, c'est que les partisans de l'Empire dont on a besoin pour réaliser cette majorité d'Union nationale ne veulent pas que le mot déchéance soit prononcé. Les Républicains entendent, eux, faire voter une motion qui fasse état de la déchéance. Mais ils ont déjà annoncé qu'ils se rallieraient à la motion intermédiaire, qui est celle d'Adolphe Thiers, qui parle, effectivement, qui dit « vu les circonstances », qui paraît une assez bonne formule pour mettre tout le monde d'accord. Mais tout ça prend du temps. Et au fur et à mesure que les heures passent, la foule qui est aux abords, à la Concorde, finit par rentrer dans le périmètre du Palais Bourbon. Et au moment où probablement l'Assemblée majoritairement va voter la motion de Thiers, qui est une motion qui peut réunir une majorité, qui ferait confiance, qui désignerait un gouvernement de défense nationale avec une régente qui serait en retrait, au moment où finalement ce que souhaitent les Républicains eux-mêmes depuis 24 heures ou presque va se réaliser,
la foule explose juste en face de la travée du président.
Et le vote ne peut pas avoir lieu.
Alors, là, on peut s'arrêter sur deux points. On joue des figures classiques du répertoire. La foule qui envahit l'Assemblée, bon, on a connu ça en mai 1793, on a connu ça en 30, en 48, en 48, en mai 1848, après le début de la Deuxième République. Alors, il y a une possibilité dans le répertoire qui est filée pas à l'anglaise, mais à l'Hôtel de Ville.
Oui, alors il y a une espèce de tradition qui s'est installée. À chaque fois que l'Assemblée nationale est envahie ou sur le point de l'être, les républicains ou les partisans de la République, effectivement, décident d'aller prononcer celle-ci à l'Hôtel de Ville. C'est ce qui s'est passé à plusieurs reprises déjà. Là, la circonstance nouvelle, c'est que c'est en réalité contraint et forcé que Gambetta, Jules Favre, Jules Ferry et les autres vont à l'Hôtel de Ville prononcer la République. C'est-à-dire qu'il leur apparaît à ce moment-là que la solution qui avait leur préférence n'est plus possible, qu'ils doivent répondre à cette pression du peuple et constituer un gouvernement à l'Hôtel de Ville qui proclamerait la République, ne serait-ce que pour éviter que les révolutionnaires, les jacobins, ne prennent le pouvoir, ce qui serait pour eux ce qu'ils peuvent imaginer de pire, puisqu'on reculerait encore le moment où la République pourrait être prononcée en France.
Gouvernement constitué des 15 députés de Paris qui sont tous républicains, enfin sauf Thiers qui se défile toujours parce qu'il attend peut-être son heure. C'est important dans la tradition républicaine, la préservation de la légitimité de la délibération. C'est pas moi qui vous lance sur la politique contemporaine, puisque c'est vous qui parliez des constructifs. À la France insoumise aujourd'hui, je ne sais pas si on est radicalement opposé à la possibilité que le peuple intervienne là, depuis les tribunes.
Non, effectivement, il y a toujours eu à gauche deux traditions, et donc on retrouve cette tradition aujourd'hui, effectivement, dans les insoumis, disons que c'est les révolutionnaires d'aujourd'hui. Alors évidemment, il n'y a plus de violence, et il serait impossible, je pense, qu'il se lance dans une insurrection violente. Mais on voit bien qu'il y a un refus de la part d'un certain nombre d'insoumis, si j'ai bien compris leur discours, de considérer que le système représentatif est le meilleur.
C'est ce que vous appelez la gauche ouverte et la gauche fermée. Et puis il y a une autre tradition, c'est l'iconoclasme, donc on casse les aigles des Tuileries, on couvre les haines qui sont inscrits en majuscules un peu partout. L'impératrice réussit à fuir d'une manière tout à fait improvisée. Je ne sais ce qui lui serait arrivé si elle était tombée entre les mains de certains. Mais ce jour, il n'y aura pas de sang qui coule. Vous faites la carte de l'intensité patriotique qui va se révéler après la proclamation de la République. Il y a des régions rétives.
Oui, alors d'abord, ça c'est une particularité de cette révolution qui ressemble décidément pas aux autres, c'est que pour la première fois, la République a été proclamée en province avant Paris. Ça a été le cas à Lyon et à Marseille notamment. La République a été proclamée dès le matin ou la fin de la matinée, alors qu'à Paris, elle n'était prononcée qu'à 16 heures. Mais effectivement, ceux qui proclament la République à Lyon ou à Marseille, ce sont les révolutionnaires. C'est toute la différence. Et c'est contre eux aussi que Gambetta et le gouvernement de la Défense nationale aura à se battre ensuite.
Et puis à Bordeaux, ici, restitution de ce qui a pu se passer à Bordeaux avec deux quidam, toujours la tribune de l'histoire.
République française, ministère de l'Intérieur. La déchéance a été prononcée au corps législatif. La République a été proclamée à l'hôtel de ville. Un gouvernement de la Défense nationale, composé de 11 membres, tous députés de Paris, était constitué et ratifié par acclamation populaire. Veuillez faire afficher immédiatement et au besoin proclamer par crieur public la présente déclaration. 4 septembre, 6 heures du soir.
Alors qu'est-ce qui se passe ?
C'est fait. La révolution a été faite cet après-midi à Paris. Le préfet a remis ses pouvoirs. Alors, la police impériale...
Tant mieux. 11 ans de bannissement,
ça suffit.
Je vais reprendre ma plume. Mon nouveau journal va s'appeler La Victoire.
La Victoire, elle n'est pas là.
Elle sera là, Del Cusso. Les Prussiens ne vont plus avoir affaire au grand-père de M. Bonaparte. C'est la France en armes qui va s'adresser devant eux.
Mais une suspension des hostilités est inévitable. La Prusse n'est pas notre ennemi. Napoléon a battu. Nous pouvons discuter.
À quel prix, Del Cusso ? À quel prix ?
Et cette division entre ceux qui veulent aller jusqu'à la victoire alors qu'il n'y a pratiquement plus d'armée, celle de Metz est prisonnière du piège prussien, et puis ceux qui souhaitent la négociation, on la retrouve même dans le gouvernement.
Oui, on la retrouve dans le gouvernement avec cette particularité que ceux qui sont partisans de la négociation n'osent pas le dire. Ils le disent entre eux, mais n'osent pas le dire publiquement car ils savent qu'ils seraient balayés par une révolution s'ils le disaient, car le peuple de Paris vit dans l'illusion, on vient de l'entendre, c'est semble-t-il pareil à Bordeaux, vit dans l'illusion qu'une fois l'Empire effondré, la Prusse se retirera pratiquement. Et effectivement, les républicains, eux, savent que c'est faux et qu'il va falloir se battre dans des conditions épouvantables.
Mais illusion, la France est une grande puissance, c'est une puissance de conquête, et puis elle peut d'abord se défendre. 15 septembre, les Prussiens sont à Corbeil. 20 septembre, ils sont à Meudon, à Aubervilliers, à Saint-Denis. Le 27 octobre, ce sera la capitulation de Metz. Et on sait que le gouvernement de défense nationale, exilé au bout d'un moment à Tours, sauvera au moins l'honneur. Alors, invention de la République. Une fois que vous nous avez raconté tout cela par le menu, je vois pas ce qui justifie vraiment le titre. Si vous ne dissimuliez pas vos sentiments, comme les partisans de la négociation... Vous diriez presque coup d'État.
Oui, d'une certaine manière, c'est un coup d'État qui s'est curieusement réalisé avec le quasi-consentement de ceux qui quittaient le pouvoir, puisqu'ils n'ont pas vraiment résisté. Mais pourquoi invention de la République ? C'est peut-être là le juriste qui pointe son nez derrière l'historien. Dans le Code civil, on appelle inventeur celui qui découvre un trésor. C'est l'inventeur du trésor. Et ce jour-là, ayant proclamé la République dans l'improvisation la plus complète et presque malgré eux, on peut dire que Gambetta, Jules Favre, Jules Ferry et tous les autres ont inventé la République au sens où ils ont proclamé la République dans des conditions qu'ils n'avaient pas prévues et qui se révélaient absolument contraires à tout ce qu'ils avaient envisagé jusque-là. Voilà,
Et ces avocats, parce que ce sont tous des avocats, maître, ils ont trouvé dans le trésor une volonté populaire insoupçonnée de résistance et même une conviction, au moins dans le peuple de Paris, d'une victoire, ce qui paraît impossible.
Absolument. Ils savaient que c'était impossible. Ils y ont adhéré parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement, mais ils se sont battus comme des lions. Et Gambetta, le premier d'entre eux, s'est battu comme un lion. Et c'est ainsi qu'ils ont pu ensuite installer la République par la suite, parce qu'ils avaient sauvé l'honneur. Et c'était le seul parti, le seul qui avait sauvé l'honneur. Et que, dans l'esprit du public, c'était eux qui avaient défendu l'intégrité du territoire.
Et les élections qui suivront, ils ne les gagneront pas, mais ils seront 200, c'est-à-dire très au-delà du recrutement qui aurait été le leur sans la défaite et sans le 4 septembre. Votre livre paraît aux éditions Perrin. Cette émission a été réalisée par Valérie Aestaray avec Ludovic Asselot à la technique, et la préparation, c'était Frédéric Martin et Lina Bouéry. Quoi donc au programme, Mathieu Vidard ?
Eh bien, nous les cherchons, Jean. Où sont-ils ? Les extraterrestres, bien sûr, et on en parle avec mes invités.
C'est la deuxième fois depuis le début de l'année 2017, déjà, j'ai noté.
C'est vrai ?
Ah ouais, c'est un souci chez vous.
Mais là, on a d'autres choses à dire.